papa, 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 papa.
Bravo, Juliane, bravo, ma chérie.
Maman.
Tente avec conviction la voix de ma mère, provoquant l'hilarité de mon père et par ricochet, la mienne. L'écran devient noir. Retour dans le présent. J'extrais la cassette du magnétoscope. Je la glisse dans sa jaquette et la range dans un carton, avec les dizaines d'autres. Papa. Combien de fois l'ai-je prononcé ? En riant, en boudant, en criant, en pleurant, en râlant, en jouant, en aimant. Papa, regarde. Papa, t'es où ? Papa, t'es drôle. Papa, on joue ? Papa, t'es le meilleur. Papa, t'es pas drôle. Papa, j'ai plus l'âge de jouer. Papa, dépose-moi plus loin. Papa, tu m'accompagneras à l'hôtel ? Papa, tu vas être papy. Je ferme le carton. C'était le dernier. Ma sœur tire la porte de la chambre et me rejoint. On y va ? On y va. Papa. C'est le premier mot que j'ai su prononcer. Un mot tout bête, qui sort sans qu'on y pense, sans demander la permission. Un mot comme un automatisme, comme une respiration. Un mot d'enfant. Un mot d'amour. Un mot comme un membre fantôme qui fait mal quand il n'est plus là. Première partie. Le déni. Chapitre 1. Mon père s'appelle Jean, et c'est la seule chose qu'il fait comme les autres. Enfant, j'idolâtrais ce papa haut en couleur qui chantait à tue-tête au volant et nous servait un petit déjeuner au dîner. C'est dans ses bras que je me réfugiais, sur son dos que j'attaquais les dragons. C'est à lui que je dédiais mes dessins, pour lui que je récitais des poèmes. Adolescente, j'avais honte de ce père pas dans le rang, avec ses cheveux longs, ses shorts en jean et sa dégaine de prépubère, qui venait me chercher au collège à mobilette et parlait à mes potes comme si c'était les siens. C'est à son nez que je claquais la porte, sur lui que je criais. C'est à lui que je reprochais mes mauvaises notes, mon mal-être, mes échecs. Adulte, je l'aime, mais il m'exaspère, comme tout ce que je ne comprends pas. Il est mon exact opposé. Nous sommes dépareillés. Je prends soin de rester dans les lignes, de respecter les contours. Il déborde allègrement, et les contours. Il s'assoit dessus avec son short. Je suis en réunion quand son nom s'affiche sur l'écran de mon téléphone. Je ne l'ai pas vu depuis des mois, et comme à son habitude, il choisit le moment le plus inopportun pour se manifester. J'étouffe la sonnerie et adresse un sourire d'excuse à mes collègues. Mon père n'est pas le cheveu sur la soupe, il est la touffe entière. Il rappelle immédiatement. Je raccroche. Troisième tentative, les regards désapprobateurs me poussent à décrocher. Mon halo est si sec que je m'intimide moi-même. Dans le haut-parleur, ce n'est pas sa voix. Je bafouille une explication et quitte la réunion en catastrophe. Tout au long du trajet, mon imagination s'en donne à cœur joie. Le pompier m'a assuré qu'il n'y avait que des dégâts matériels, pourtant je ne peux écarter la possibilité qu'il attende que je sois face à lui pour m'annoncer le pire. J'envisage tout. Trouver mon père éploré, en état de choc, le voir blessé, peut-être pire. Tout, sauf ce qui m'attend. Dans son jardinet détrempé par les lances à incendie, sa maison calcinée en arrière-plan, mon père, aussi détendu qu'il est possible de l'être pour un vertébré, fanfaronne.
« Ça tombe bien, j'avais prévu de changer le papier peint. »
Tout le monde s'esclaffe, des voisins curieux aux pompiers. Alors, encouragé, il se tourne vers moi pour vérifier si moi aussi. Mon regard le reçoit comme il faut. Je suis tellement rassurée de le voir bien vivant que j'ai envie de le tuer. Loin de s'en formaliser, il avance vers moi en souriant. Je n'ai pas quitté ma voiture. Mes jambes flageolent trop.
« T'inquiète, microbe, c'est que du matériel. Ils ont absolument voulu prévenir quelqu'un, j'ai pensé à toi. Mais j'aurais pas dû. T'as autre chose à faire, hein ? Tu vas bien ?
Qu'est-ce qui s'est passé ?